Alors, en guise d'introduction, ce culte aurait dû être très différent de celui d'aujourd'hui. Et voilà, les circonstances ont fait que, mais en tout cas, je veux remercier du fond du cœur Jean-O pour sa disponibilité vraiment au dernier moment. Et aussi Lucille, merci à toi pour ta présence, ta disponibilité. J'étais aussi super content d'avoir quelques échantillons, parce qu'en fait je ne les avais pas vus, des dessins de Sarah. Merci Sarah. Et c'était un petit peu voilà, un avant-goût, parce qu'on vous a préparé un culte au chaud, en tout cas avec les lycéens, et que du coup on le réutilisera le moment venu, on espère en tout cas, que ça sera possible dans les prochains mois de vivre ce temps-là avec toutes les générations. Voilà, et maintenant je vous laisse découvrir, je vous laisse plonger dans le temps de la prédication de ce matin. Je vous invite à ouvrir, que ce soit avec vos smartphones, vos bibles ou autre chose, votre bible donc au psaume 119. La semaine dernière, pour ceux qui étaient là ou qui ont suivi d'ailleurs en visio, donc pour tous ceux qui nous suivent en visio, coucou, on a parlé aussi, enfin on a fait, Arnaud nous a introduit au psaume 23, et aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous le psaume 119. Je ne sais pas quelle relation vous entretenez avec les psaumes. Moi j'avoue personnellement c'est un peu mitigé. Parce que je trouve que bien souvent, l'image qu'on a des psaumes, c'est une image qui est assez figée, en fait, un peu kitsch. Celle de 2-3 versets des psaumes clés qu'on connaît tous, qu'on choisit un peu comme ça en fonction de ce qui nous plaît, et qu'on retrouve affiché chez soi, dans la salle à manger, dans le salon, avec comme fond un joli coucher de soleil, ou alors un bouquet de fleurs, au mieux. Hein. Je ne sais pas si vous voyez le genre. En gros, ça ressemble, si ça marche, ça ressemble un peu à ça. Voilà, ce genre de choses-là, on a dit décidément, ça met un peu de temps. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, les psaumes? Des belles phrases, qui sont riches en poésie, en émotion aussi, pour embellir nos salons. Ou alors, peut-être c'est des dictons de sagesse, qui nous permettent de mieux vivre notre vie au quotidien. Moi, dans mon cas, j'ai l'impression que parfois, ça fait un petit peu... certains sont un peu comme des slogans, en fait, un peu comme... voilà, manger 5 fruits et légumes par jour, c'est un peu les manger 5 fruits et légumes par jour de la Bible. Alors, est-ce que c'est ça, les psaumes? Ce qui est intéressant, c'est que dans la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, en fait, le regard qui est porté sur les psaumes nous permet d'aller plus loin. Il y a plus dans les psaumes que simplement des leçons de vie. Et par exemple, l'apôtre Paul, il a cette phrase qui dit aux Colossiens, instruisez-vous et avertissez-vous par des psaumes. C'est intéressant ça. Instruisez-vous et avertissez-vous par des psaumes. Est-ce qu'on pourrait s'enseigner les uns les autres par des psaumes ou se reprendre les uns les autres par des psaumes? Alors c'est ce que je vous invite en tout cas à faire par le psaume 119 ce matin. Et je vous propose trois tableaux. On va garder cette idée des tableaux, un peu comme ce que Sarah a fait. Trois images, en fait, qu'on pourrait garder pour se représenter le psaume 119. Ces trois tableaux, ce serait le psaume 119 comme un dialogue d'intimité. Une conversation privée ou une conversation priée, tout simplement. Le deuxième, ce serait le psaume 119 comme une œuvre d'art, comme un poème raffiné. Et on va voir que c'est incroyable tout ce qu'il peut y avoir noté, tout ce qui peut être important dans ce psaume-là. Une telle richesse qu'il y a dedans. Et le troisième, c'est le psaume 119 comme un éloge à la loi. Alors classiquement, pour ceux qui ont déjà étudié les psaumes, on met le psaume 119 dans la catégorie des psaumes didactiques. En fait, on appelle ça les psaumes de sagesse. La raison en est très simple. Si vous lisez le verset 1, heureux ceux dont la conduite est irréprochable, on a cette béatitude introductive que l'on retrouve dans d'autres psaumes de sagesse, comme par exemple le psaume 1, tout simplement. Le psaume 27, il y en a d'autres aussi encore, quoi. Mais ce qui est intéressant avec le psaume 119, justement, c'est qu'après, on va basculer dans un registre totalement différent, si on pourrait dire. On passe dans un dialogue entre un je qui prie et un tu à qui il s'adresse. Et du coup, ça devient un ton extrêmement personnel. L'auteur parle de lui comme d'un sujet, il dit « j'aime, je sais, je cours, je trouve », plein de références comme ça, mais il dit aussi qu'il est l'objet de cette prière. Il dit à son interlocuteur « apprends-moi, donne-moi, fais-moi vivre, ou alors ouvre mes yeux ». Et on sent que l'auteur, en fait, il est très impliqué dans cette relation d'intimité avec Dieu, avec la parole de Dieu. Et au final, si vous parcourez le psaume 119, bon, c'est un peu long, hein, mais l'impression qui prédomine, c'est pas tant celle d'un enseignement de sagesse que finalement celle de la vie d'un croyant qui est en chemin, en dialogue avec son Créateur et qui expérimente la présence de Dieu dans son quotidien. En fait, on pourrait dire que ce psaume, c'est plus en fait une prière en dialogue que un enseignement formel qu'on apporterait du haut de la chair. Donc en fait, finalement, c'est pas très approprié pour une prédication, en fait. Ce qu'on pourrait garder en tête, c'est que finalement, on s'enrichit toujours plus dans la communication quand on est en dialogue qu'en monologue. Le deuxième tableau, c'est celle de l'œuvre d'art. Ce texte, c'est un poème, mais d'une subtilité incroyable. Alors, pour vous donner une idée, certains juifs le chantent par cœur. 176 versets par cœur. Comment font-ils? Ils ont le même cerveau que nous, hein, en théorie. En fait, il y a des choses qui facilitent la vie, et ça, les auteurs l'ont très bien compris. On appelle ça les moyens mnémotechniques. Alors, pour ceux, donc c'est plus facile à comprendre qu'à prononcer, mais en gros, c'est une fascinante structure du texte qui nous offre un super moyen mnémotechnique, puisqu'en fait, la structure est basée sur une composition en acrostiche. Alors, je ne savais pas ce qu'était un acrostiche. Voilà un exemple d'acrostiche. Donc, je ne pensais pas en arriver à nouveau là avec ce confinement qui nous restreint dans nos vies. Heureusement, où que nous soyons, Dieu est là. Voilà. Et donc, vous avez l'acrostiche. Jean-Haut, voilà. Merci Jean-Haut. Et en fait, c'est comme ça que fonctionne le psaume. En fait, les 22 lettres de l'alphabet hébreu introduisent chacune des parties. Et on le voit, par exemple, ici. En fait, c'est des sections de 8, 22 fois. Et si vous faites le calcul, 8 fois 22, 176. Donc vous savez, maintenant vous n'allez plus jamais l'oublier, vous savez combien il y a de versets dans le psaume 119, voilà, 8 fois 22. Le nombre 22, alors c'est intéressant parce qu'au final, la symbolique est intéressante. C'est le nombre de lettres de l'alphabet hébreu. Chacune de ces parties-là s'introduit par une de ces lettres de l'alphabet. Une tradition de l'Église orthodoxe nous dit que c'est grâce à ce psaume-là que David aurait enseigné l'alphabet à son fils Salomon. Mais en fait, pour les Juifs, en réalité, ce que ça veut dire, c'est que ces 22 lettres-là, c'est plus qu'un alphabet. Parce que ces lettres, elles ont la capacité de transcrire la pensée de Dieu. Elles sont à la source de l'écriture qui nous délivre ce que Dieu a à nous dire. Et dans ce sens-là, elles ont une force incroyable, ces 22 lettres. Avec ces 22 lettres-là, on écrit tout ce qui a marqué, en tout cas, c'est ce que disent les Juifs, tout ce qui a marqué dans la Torah. Tout ce que Dieu a à nous dire dans la Torah. Et vous avez vu, le nombre 22, il est associé avec ce chiffre 8. Alors, la symbolique du chiffre 8, en fait, ça veut dire « au-delà de la nature ». Dans le récit de la Genèse, vous savez que tout se passe en 7. La nature a été créée en 7 jours, tout a une récurrence de 7, de 7, de 7. En fait, l'idée du 8, c'est de dire ça va au-delà de ce qui est naturel, c'est du surnaturel. Ça va au-delà de l'ordinaire, c'est de l'extraordinaire. Est-ce que quand on lit le psaume 119, on se dit « Waouh, là j'ai face à moi quelque chose d'extraordinaire ». Et on pourrait dire, nous sommes face à un psaume surnaturel. Il y a une deuxième chose qui facilite l'apprentissage de ce psaume, c'est son thème. Aussi long soit-il, 176 versets, à chaque verset, il est question de la loi divine. Alors, bien sûr, les Juifs aiment bien les exceptions, donc il y a un seul verset où il n'y a pas, mais tous les autres, sinon il y a, je vous le promets, si ça peut vous intéresser de chercher le verset dans lequel il n'y a pas. Je crois qu'il est alentour de 120, quelque chose comme ça. Mais du coup, l'idée, c'est que on ne dit pas à chaque fois la même chose. Il y a tout un champ lexical, si on peut dire, c'est-à-dire une manière de décrire les choses. Donc là, vous avez par exemple, donc je les ai surlignés. Le numéro 1, par exemple, ben c'est ceux qui règlent leur vie sur la loi du Seigneur. Mais il y a aussi le terme de parole, la parole de Dieu. Il y a aussi le terme de statut ou de témoignage. Alors moi, j'ai choisi la version second 21. Il y a d'autres termes qui peuvent être utilisés, la notion de commandement, de précepte. Ah, du coup, ça va décaler. De décret et de promesse. Ça peut varier en fonction des traductions. En fait, tout ça, c'est là pour décrire une seule chose, la loi de Dieu. Mais, si on peut dire, c'est comme dans un nuancier, c'est comme dans une tablette de couleurs avec plein de crayons. Chaque crayon a une couleur différente. Chaque terme a une couleur différente. C'est comme une nuance qu'on apporterait au grand tableau qu'est la loi de Dieu. Et alors, bon, là du coup on ne le voit pas, mais je vous le donne en mille. Combien il y a de termes différents pour parler de la loi ? 8. C'est un peu comme si le psalmiste nous disait « La loi, c'est du surnaturel. La loi, c'est de l'extraordinaire dans la vie du croyant. » Un des pères de l'Église, qui s'appelait Origène, il disait en commentaire de ce psaume que de la même manière que l'alphabet, c'est le commencement de l'apprentissage humain, c'est-à-dire quand on commence à écrire, à parler, à communiquer, tout ça, en tout cas dans l'enseignement standard, on apprend l'alphabet, de la même manière, le respect de la loi, c'est le point de départ de l'enseignement divin. Comme l'alphabet, c'est le commencement de l'apprentissage humain, le respect de la loi, c'est le commencement de l'apprentissage et de l'enseignement sur Dieu. Et ce même Origène, du coup, il rapproche le fait que le nombre de lettres hébraïques, en fait, elle correspond au nombre de livres canoniques de l'Ancien Testament, 22. Et il dit, les 22 lettres, comme les 22 lettres de l'alphabet sont une introduction au savoir général, les 22 livres de l'Ancien Testament sont une introduction à la connaissance de Dieu. Il nous inaugure, il nous permet de faire le chapitre introductif de qui est Dieu, au travers de la loi et de la Torah. Et on en arrive du coup au troisième tableau, qui est celui de l'éloge à la loi. Comme on l'a vu, le psaume tout entier parle de l'importance de l'étude de la Torah. C'est la loi. Et là, les Juifs, ils sont en extase, parce qu'on met la Torah au centre. Je ne sais pas ce que ça vous fait, mais dans notre culture, c'est difficile d'être ému quand on pense à la loi. Je ne sais pas vous. Parce qu'en fait, nous, on l'associe avec des règles, avec des normes. En fait, c'est un peu notre héritage romain, si on peut dire ça comme ça. Les Grecs, eux, ils utilisaient le mot loi pour parler plutôt des coutumes, des coutumes et des traditions. Mais les Juifs, pour eux, comme l'auteur du psaume 119, en fait, la loi, la Torah, c'est le message de Dieu, c'est la révélation de Dieu. Donc tout cet enseignement-là, en fait, il est profondément lié à qui est Dieu. Alors bien sûr, ça inclut des lois et des règles, mais ça va beaucoup plus loin. Comme on l'a vu d'ailleurs avec ces 8 mots qui permettent d'élargir le spectre de la loi en disant que ce n'est pas juste des règles et des normes et des choses comme ça, quoi. Et un élément fondamental, c'est que du coup, dans la culture hébraïque, en fait, la loi, si on la schématise, elle se concentre dans la symbolique du récit fondateur. que tout juif connaît et que nous aussi nous connaissons, puisque ça fait partie de notre histoire, de l'histoire du peuple d'Israël. Cette loi de Dieu, elle est décrite en trois étapes. La première, c'est la délivrance de Dieu. La loi, elle contient la délivrance de Dieu. En fait, c'est la délivrance du pays d'Égypte. Mais la loi, c'est aussi le commandement de Dieu. C'est celui qui est délivré à Moïse sur le mont Sinaï. Mais elle a aussi en elle la promesse de Dieu d'entrer dans le pays promis à Canaan. Et si on peut dire, dans le grand récit biblique du peuple juif, on est au climax. Alors, le climax, c'est un terme narratif qui veut dire on est à l'apogée du récit. En fait, ça avait commencé avec tout un récit et tout ça. Et puis, on arrive au pic. Tous les gens qui construisent des histoires savent qu'on construit une histoire comme ça. Pour le peuple d'Israël, pour le peuple juif, il n'y a pas de plus grand climax dans l'histoire que la révélation de Dieu au mont Sinaï. Le fait que Dieu écrive les 10 commandements avec son propre doigt sur les tables de la loi, là où Dieu délivre sa parole, ce qu'il a à dire de plus profond. D'ailleurs, 10 commandements, ça se traduit aussi par 10 paroles. C'est ça l'apogée, en fait, de tout le récit de la Bible. Et tout s'inscrit dans cette thématique-là, tout ce qui vient avant et tout ce qui va après. Et en fait, l'auteur du psaume 119, il est dans cette logique-là. Et du coup, si on parcours brièvement, et je vous invite, si vous avez l'occasion de le faire, à reparcourir ce psaume en essayant de voir quelles sont ces différentes manifestations. Et bien sûr, pour ne pas casser les choses, je vais rester avec 8 arguments. Le croyant cherche à tirer profit de la parole de Dieu. Et il nous est dit que il est très positif à son sujet. Au verset 16, il dit « Je fais mes délices de tes prescriptions. » Les délices de tes prescriptions. Mais il est aussi humble vis-à-vis d'elle. Au verset 161, il dit « Mon cœur ne tremble mais qu'à tes paroles. » Il s'attend à ce que Dieu lui parle à travers elle. Il est déterminé à lui obéir. Il cherche à la comprendre et à lui obéir. Verset 33, il dit « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts. » Mais aussi, il passe du temps avec elle. Au verset 96, « Elle est tout le jour l'objet de ma méditation, de mes pensées. Toute la journée, j'y pense. Toute la journée, je le médite. » Il prend ses décisions à la lumière de cette loi, de cette parole de Dieu. Et enfin, au final, il admet que parfois, il s'en détourne et il en dévie. Vous retrouvez ces 8 thèmes constamment dans la dynamique du psaume. Et ce psaume, c'est finalement, comme je l'ai déjà dit, cet éloge, cette apologie de l'alliance basée sur la loi comme événement central, comme parole de Dieu accordée aux hommes. Et il est temps de conclure. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas juifs. J'aimerais réfléchir à tous ensemble, peut-être sur qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour nous aujourd'hui. Et j'aimerais utiliser pour ça une expression, qui est l'expression « parole de Dieu ». Quand on dit « ouvrons pour voir ce que dit la parole de Dieu », quand on dit « prenons la parole de Dieu », à quoi est-ce qu'on fait référence? La plupart du temps, dans les milieux évangéliques, on pense à ça. On pense à la Bible. Quand on chante « Ta parole est une lampe devant mes pas », en général, c'est que la prédication n'est pas loin, hein, en général. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de me dire est-ce que vraiment la Bible parle d'elle-même en tant que parole de Dieu, en tant que telle? Et si on fait un parcours, on n'a pas le temps de tout voir aujourd'hui, mais si on fait un parcours, en fait, la Bible, notamment dans la bouche
de Jésus et de l'Église primitive, en fait, elle parle plutôt d'elle comme étant les Écritures. Elle nous dit que toute l'Écriture est inspirée et utile pour convaincre, pour enseigner, 1 Timothée 3,16. Alors, je ne dis pas que c'est faux de dire que la Bible est la parole de Dieu, mais peut-être est-ce qu'il y a quelque chose de plus précis sur qu'est-ce que la parole de Dieu. Et en réalité, j'aurais même tendance à dire, du coup, peut-être que si on regarde et qu'on approfondit de ce que la Bible nous dit, on ne devrait pas poser la question « qu'est-ce que la parole de Dieu ?» mais « qui est la parole de Dieu ?» Parce que dans l'Évangile et dans les récits, il nous est dit que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Cette parole de Dieu ultime, c'est-à-dire le mot définitif, le point d'orgue de l'histoire, c'est ça. Nous suivons Jésus avant tout. On ne suit pas la Bible en prenant n'importe quel verset comme un texte plat, mais on le suit avec Jésus en ligne de mire. Et ça a des implications très concrètes, j'aimerais vous en laisser 3 en conclusion. Donc voilà le verset de Jean 1. Au commencement était la parole c'est Jésus. La première, c'est que Jésus, en tant que maître de nos vies, il nous appelle à recentrer notre manière de lire les Écritures sur lui et uniquement sur lui. Il y a une conversation très intéressante dans Jean 5. Là aussi, j'y fais référence sans trop l'aborder, où en fait Jésus parle avec les spécialistes l'étude de la Bible. À l'époque en tout cas, on appelait ça la Torah. Et c'est intéressant parce que dans le dialogue qu'il a avec eux, il les reprend sur un point. Vous ne savez pas lire les Écritures. Et on peut lire ça dans Jean 5, versets 39 et 40. Il nous est dit, enfin c'est Jésus qui parle, il dit « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez que c'est au travers des Écritures que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. En fait, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Ce que Jésus dit, en fait, c'est qu'il dit que tout ce qu'on peut lire là-dedans, en fait, ça se centralise vers lui, ça se tourne vers lui. Et que si on prend un texte et qu'on ne le met pas en focalisation avec un filtre, on pourrait dire le filtre de Jésus, en fait, ben, on peut très bien se tromper dans notre manière de lire la Bible. Parce que, au final, le récit biblique, on l'a vu sur le plan juif, mais sur le plan chrétien, il a aussi une apogée, il a aussi un climax. Le point central de toute notre lecture de la Bible, pour nous, ce n'est pas le don de la Bible au Mont Sinaï. Pour nous, c'est Jésus-Christ qui est né, qui a vécu, qui nous a laissé des enseignements, qui nous a montré une manière d'agir, qui nous a montré comment on donne sa vie par amour et qui après est ressuscité. Et du coup, ça change totalement notre manière de vivre les choses. Et d'ailleurs, les chrétiens l'ont vu, puisqu'en fait, ils ont appelé un Ancien Testament et un Nouveau Testament. Ça veut dire qu'il y a une ancienne manière de faire et une nouvelle manière de faire. Et l'apôtre Paul nous dit que du coup, on ne vit plus sous cette ancienne alliance, mais on a une nouvelle manière de vivre, une nouvelle alliance. Et cette alliance-là, la particularité, dans 2 Corinthiens 3, 6, c'est qu'en fait, donc il est dit « il », c'est Dieu, nous a rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance qui n'est plus de la lettre, mais qui est de l'esprit. Et il ajoute cette phrase qui est incroyable, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie, ou l'esprit vivifie. La lettre tue. Et quand j'ai réfléchi, en préparant ce message, je me disais, mais combien de fois est-ce que, même les chrétiens aussi, ont pris ce texte-là, l'ont interprété de manière littérale et du coup ça a entraîné des catastrophes, des personnes tuées, tout simplement parce que on voulait respecter la Bible avant de suivre Jésus. En définitive, et c'est le dernier point, nous ne sommes pas, je pense en tout cas, c'est mon avis, ultimement nous ne sommes pas des gens du livre. En tout cas, c'est une expression que vous connaissez peut-être, souvent on dit que les juifs et les chrétiens sont des gens du livre, je dirais que nous sommes des gens de la personne. C'est ça qui nous centralise. Parce que Jésus-Christ, en fait, a pris autorité sur toute chose. Il a pris autorité sur toute chose. Et c'est lui qui le dit, Matthieu 28, verset 18. Toute autorité m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Alors du coup, on ne s'arrête pas de lire la Bible, mais on lit la Bible pour, comme une fenêtre qui nous ouvre vers Jésus, comme un moyen pour comprendre qui était Jésus, comment est-ce que je peux accéder à ce qu'il nous a transmis, à ce qu'il nous a dit. Voilà, j'aimerais terminer donc par une petite mise en pratique. J'ai entendu une fois quelqu'un qui disait que la partie la plus importante d'une prédication ou d'une étude biblique, c'est quand on ferme la Bible. Parce que là, on voit, est-ce que c'était juste des belles paroles ? Que du coup, on va garder quelques heures, allez, on va s'en rappeler, et que finalement, ça ne changera rien dans nos vies ? Ou est-ce que du coup, ça va devenir quelque chose qui va me transformer au fond de moi ? Qui va transformer mon cœur, ma manière de penser les choses, mes habitudes ? Qui du coup, va me pousser à l'action, à me dire, mais comment est-ce que je peux mettre en pratique ce que j'ai compris et ce que j'ai entendu ? Et du coup, pour essayer de transformer ça et de convertir l'essai, si on peut dire, j'aimerais reprendre, vous rappeler sur les 8 catégories, les repasser juste pour essayer de les transformer à notre sauce, si on pourrait dire. C'est-à-dire les passer au travers du filtre, non plus de la Torah, mais du filtre de Jésus-Christ. Avec une question clé, peut-être, que je peux vous laisser. Au final, qu'est-ce que je vais changer, moi, dans les prochaines semaines ? Pour que, dans le confinement qu'on va vivre, pour que ce que j'entends, ce que j'ai entendu aujourd'hui, mais ce que j'entendrai aussi dans les prochains temps, au travers de ce que je vais lire dans la Bible, va être transformé, va devenir vrai dans ma vie. Je reprends les 8 points brièvement. Le chrétien est très positif au sujet de la parole de Dieu. Et si on remplace parole de Dieu par Jésus-Christ, il est très positif au sujet de Jésus-Christ. Parce que quand on lit l'histoire de Jésus, on se rend compte que c'était un homme rempli de patience, de bonté, de générosité, qu'il était à l'écoute des autres, mais qu'il était aussi cohérent avec lui-même entre ce qu'il a enseigné et ce qu'il a vécu. L'amour de l'ennemi, au final, il l'a vécu concrètement. Et moi, je me dis, cet homme-là, ça peut être un modèle de vie pour moi. C'est quelqu'un de qui j'ai envie de m'inspirer, de qui j'ai envie de, sur lequel j'ai envie de calquer ma manière de faire et de vivre les choses. Le chrétien est humble devant la parole de Dieu, car il reconnaît l'autorité de Jésus. Il s'attend à ce que Dieu lui parle à travers lui. Alors. Il cherche à le comprendre et à lui obéir, à obéir à Christ. Il passe du temps avec lui. Alors, je fais un petit commentaire. Il passe du temps avec lui. Je me suis posé la question, où est Jésus ? Pour que je puisse passer du temps avec lui, il faut que je sache où il est. Souvent, la première réflexion, c'est de se dire, il est dans le lieu secret. Vous vous rappelez cette expression souvent on dit, du coup, il faut que je prenne ma Bible, j'ai commencé à lire et je vais apprendre où est Jésus. Et c'est vrai. Et Jésus, il est aussi dans ce dialogue d'intimité, comme nous le dit le psaume 119. On peut le rencontrer aussi dans cette relation interpersonnelle. Mais je pense aussi que quand on lit la Bible, on découvre que Jésus, il est ailleurs. Et je mentionne deux, peut-être, choses qui sont banales, mais en tout cas, moi, ça m'aide. La première, Jésus est dans son corps. Jésus est dans son corps. Ça peut paraître bizarre, mais Jésus est dans son corps, ça veut dire Jésus est dans le corps du Christ. Il est dans l'Église. Autrement dit, si j'ai envie de rencontrer Jésus, rien de mieux que de passer du temps avec les membres de son corps. Passer du temps entre nous, en se soutenant, en s'encourageant. Donc c'est sûr qu'avec le confinement, il faut réinventer les choses, mais il y a plein de moyens technologiques pour vivre encore ce corps du Christ. En tout cas, je pense. Jésus est dans son corps. Et la deuxième chose que je dirais, c'est que Jésus aussi est dans le monde d'une manière tout à fait particulière. Je fais une référence. Dans Matthieu 25, il y a une histoire incroyable qui nous parle du jugement final. Et en fait, les gens aussi cherchaient à savoir où était Jésus. Ils disent, mais où est-ce que tu étais ? Où est-ce que tu étais ? Et en fait, Jésus leur dit, j'ai eu faim. et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. Si on veut aller là où est Jésus et passer du temps avec lui, ça veut peut-être dire aussi le rencontrer dans ces moments-là. Voilà, alors comment est-ce qu'on va convertir l'essai? Je pense que, et j'espère en tout cas, que si l'Esprit vous a mis à cœur de pouvoir mettre des choses en place, essayer des nouvelles habitudes, de mettre en pratique des choses, faites-le. Soyons à l'écoute de ce que l'Esprit a à nous dire. Mais si pour certains, ça peut paraître un peu flou, moi je vous propose de terminer avec deux, trois idées comme ça, au cas où. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'on voulait passer du temps avec Jésus et qu'on voulait apprendre qui il était. Comme ça, par exemple, pendant le confinement, ça peut être intéressant de relire un évangile et de revoir qui était ce Jésus, cette personne-là, quelle était sa manière de faire, d'interagir avec les personnes et tout ça. Pour ceux qui ne veulent pas lire tout l'évangile, vous pouvez vous concentrer sur Matthieu 5 à 7, par exemple. Les chrétiens considèrent que ça fait partie, le sermon sur la montagne fait partie vraiment de ce qui fait le cœur, de qui était Jésus, de ce qu'il a enseigné, de qui il a été. Pour vraiment nous inspirer et nous imprégner de sa personnalité, de ses idéaux aussi, qu'est-ce qui était important pour lui. Et puis aussi, voilà, la deuxième chose, c'était de se dire, on veut passer du temps avec lui. Et ça veut dire deux choses, ça veut dire passer du temps avec son corps, et passer du temps avec ceux qui représentent sur terre, ceux qui peuvent vivre dans les moments de faim, de soif, de souffrance, d'isolement. C'est ça aussi, être en communion avec Jésus-Christ. Alors que nous puissions vivre, les prochaines semaines, comme l'a invité à faire le psaume 119, dans ce dialogue avec Jésus-Christ. Que nous puissions être dépendants de lui, dépendant de son corps, et aussi attentif à là où il apparaît dans le monde. Parfois, ça peut être surprenant. Voilà, je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, Seigneur, toi qui es la parole de Dieu incarnée, toi qui es le message parfait que Dieu a voulu nous adresser, merci parce que tu n'es pas simplement venu sous la forme d'un livre ou d'une philosophie, tu es venu sous la forme d'un être humain que nous pouvons suivre, que nous pouvons imiter, duquel nous pouvons nous inspirer, Seigneur. Merci pour cet exemple que tu nous as laissé. Aide-nous à nous en inspirer dans notre relation avec toi, mais aussi dans le fait que nous puissions te voir au travers des autres membres de ton corps, les frères et sœurs de ton corps, mais aussi au travers des personnes qui sont dans le besoin, qui sont vulnérables, Seigneur. Seigneur, aide-nous aussi à faire ce pas de se dire, mais qu'est-ce que ça change pour moi? Et de quelle manière est-ce que j'ai envie de transformer l'essai, de ne pas laisser les choses comme si rien ne s'était passé? Seigneur, travaille nos cœurs dans ce temps d'épreuve. Et aide-nous aussi à accompagner ceux qui passent par des moments difficiles. Je pense à la famille Pelsi, à Huguette Boissonnat, et sois avec eux, sois aussi avec tous ceux qui sont seuls, qui sont dans le besoin, Seigneur. Nous voulons être ton corps dans le monde, Seigneur, et nous voulons nous inspirer de ton exemple, toi qui es la parole de Dieu vivante. Amen.